Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par l'AM UA.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Studio 404. On espère que vous êtes bien réveillés comme nos chroniqueurs. Nous, on est ravis de vous accueillir puisque pour ce numéro, on vous a fait une spéciale. Nous vous avons concocté un sujet qui nous tient tous à cœur parce que nous sommes tous passés par là ou nous sommes peut-être encore tous dedans, l'adolescence. Pourquoi l'adolescence? Parce que vous allez voir, c'est un âge assez fascinant et surtout sur Internet, c'est quelque chose, c'est un phénomène, c'est une société, ce sont des règles très très intéressantes et qui vont bien au-delà de la moquerie à laquelle les adolescents sont souvent la cible sur Internet. On en parlera autour de quatre chroniques, comme d'habitude, avec mes quatre chroniqueurs que j'accueille tout de suite, en commençant par notre ami Sylvain Palais. Comment ça va, Sylvain?
Ça va très bien.
Oh, Sylvain, t'as imité qui, là, en faisant ça va très bien?
Personne. Personne, ça.
Donc, non, Sylvain, voilà, la journée travaille dans une grande régie pub et le soir est imitateur.
Tout à fait. Retrouvez-moi au Théâtre des Deux Ânes tous les vendredis soirs pour des imitations.
Un show 14 voix, fantastique. À côté de toi, Fibre Tigre. Comment ça va, Fibre?
Bonsoir, Alam, c'est Fibre Tigre. Je suis encore un grand adolescent et on va en parler aujourd'hui. Et j'espère qu'on parlera de jeux vidéo aussi, c'est sympa.
Fibre qui a pris sa voix la plus émo pour se présenter ce soir. Oui. Face à toi, Fibre, un adolescent très dur. C'est celui qui,
mais pourquoi,
je trouve, terrorise un peu ses amis dans le cours de récré.
C'est le thug. Je n'étais pas un bully.
C'est Daz, donc. Oui, comment ça va, Daz?
Ça va très très bien.
De quoi tu vas nous parler ce soir?
Je vais parler, je sais plus. des adolescents qui jouent les chaperons pour leurs parents.
Ah oui, c'est vrai. On va bien rigoler. Je sens qu'on va bien rigoler. Et enfin, à côté de toi, c'est Mélissa. Mélissa qui n'est jamais sortie de l'adolescence puisqu'elle est toujours sur Tumblr.
Non. Je suis sur Fortnite, moi,
non, Mélissa qui est une adulte très responsable, journaliste web pour lenouvelops.com. Comment ça va, du coup?
Très bien, très bien. Je parle de ces ados justement qui sont plus intelligents que nous actuellement et qui gagnent beaucoup d'argent.
Ouais, c'est affreux à dire, mais c'est tellement vrai. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti.
Sujet numéro 1, les ados.
Ces explorateurs du net.
Nos amis les adolescents, cette race de jeunes incompris par nous, villes adultes, que nous allons tenter de comprendre ce soir par le prisme du numérique. Vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est parfois un peu cruel, mais en tout cas, on espère remettre un peu l'adolescent un peu plus haut dans vos cœurs et dans votre estime. Et pour ça, donc, nos quatre chroniques. Et on commence tout de suite par le plus adolescent d'entre nous. Il est encore fougueux. Il est encore très jeune. Il a encore la voix qui mue parfois lorsque l'émotion le prend, lorsqu'il imite des gens.
J'ai encore tout mon panache.
C'est Sylvain Palais qui ce soir va nous mixer un accent du sud-ouest plus une voix instable. Alors Sylvain, tu vas nous parler des adolescents et surtout de nous expliquer pourquoi les adolescents sont un peu les trendsetters et les explorateurs de l'internet et des us et coutumes et usages de l'internet.
Exactement. Et pour vous montrer à quel point je les porte dans mon estime, tout de suite, jingle France Culture. France Culture. Nous recevons aujourd'hui le professeur Moincard. Là, je fais une petite pause pour que vous compreniez la blague. Vous l'avez?
Non.
Professeur Moincard.
Heure Moincard.
Ouais, Heure Moincard.
Oh putain.
Ouais, okay.
Oh, professeur Moincard.
Il n'y a pas de blague.
C'est pas grave. Spécialiste du comportement adolescent. Pause pour entrer dans le personnage. Oui, bonsoir. Vous savez, l'adolescence est une période très difficile où l'on observe beaucoup de comportements déviants, n'est-ce pas? Laissez-moi vous lire cette définition de l'encyclopédie Encarta CD-ROM numéro 2. Les adolescents ont tendance à vouloir établir pour leur monde, où les adultes sont exclus, hein, n'est-ce pas, leurs propres règles et consacrer leur temps à poursuivre des activités irresponsables ou déviantes. Les cas de grossesse prématurée chez les adolescentes qui ont tendance à se multiplier dans les classes paupérisées en pays riches peuvent ainsi s'expliquer par un besoin d'attention. Et stop, professeur Moincard, vous venez de mettre le doigt sur ce qui nous intéresse ici.
La grossesse précoce?
Non, le besoin de construire un monde avec ses propres règles. Et surtout, sans les adultes.
Et comment ça s'applique au numérique, du coup?
Eh bien, c'est très simple. On remarque souvent que les adolescents se ruent systématiquement sur ce que j'appelle les territoires inexplorés des internets, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui sont vierges de la folie des hommes adultes, comme Daz, par exemple. Parce que moi, je les considère comme des pionniers. Pour moi, les adolescents, c'est les explorateurs du 21e siècle. C'est les explorateurs d'un nouveau monde inexploré. Eh oui, monsieur, eh oui. C'est eux les défricheurs, c'est eux qui exploitent et découvrent les nouveaux usages sur Internet.
Par exemple.
Par exemple, je suis sûr que le fondateur de Snapchat, quand il a lancé son service, il n'avait aucune idée de comment les gens allaient l'utiliser. Et ben au final, les adolescents s'envoient leur bite. Et ouais. Et
un an que les adolescents.
Merci.
Et un an après eux, je découvre Snapchat et je fais comme eux.
Bravo Sylvain.
Rajoutez-moi mon pseudo, c'est DasJDM. Non, mais regardez les RTC sur Twitter.
Oui.
Combien de carrés dans cette image sur Facebook? Like si tu aimes les chiens, commente si tu préfères les chats. 1000 likes et la chef des pom-pom girls me suce. Ça existe.
Oui, c'est vrai.
C'est pas le community manager du Cora de Rennes qui a inventé tout ça. C'est les ados. Bien avant les spécialistes du marketing, c'est vrai. Mais genre, des mois avant le marketing, c'est eux qui se servaient de ces usages-là. Comme Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique et qu'on est arrivé pour y construire des casinos dans des réserves indiennes, c'est exactement la même chose. Et oui, les RTC et compagnie, c'est un peu bourrin. On est d'accord, c'est des méthodes pas du tout subtiles. Mais bon, elles fonctionnent parce qu'en fait, elles cachent pas la finalité derrière le masque de la manipulation. Cette finalité, c'est quoi? C'est le succès. Pourquoi les ados découvrent ça et pas le community manager du Cora de Rennes? Parce que les ados, ils n'ont pas de race. Non mais sérieux, ils s'en foutent. Ils n'ont pas ce recul que la société, le travail, les coups durs, les obstacles nous ont inculqués à nous les adultes. Nous, on se cache derrière un masque. Un ado qui boit sa première goutte d'alcool à une fête, ça se termine en vomi partout. C'est exactement pareil avec le succès. On prend son premier like, son premier cœur dans un commentaire, et là, c'est l'escalade de la drogue. C'est vrai.
Si
je parlais de cocaïne la dernière fois, c'est exactement ça. Tout est bon pour y arriver. Les RTC, les pom-pom girl me suce, tout ces conneries. Et avec les réseaux sociaux, en fait, ils ont enfin un endroit sans les adultes où ils peuvent se lâcher complètement. Ils n'ont aucune bride. Nous, on est adultes, on réagit comme ça. Le clout? Pas du tout, je regarde jamais. Je suis pas du tout sur Twitter pour ça et tout. Voilà. L'ado, lui, va dire, putain, Kevin a 5 fois plus de points que moi. Comment je vais faire pour hacker Clout? Comment je vais faire pour avoir du succès? Il faut absolument que je passe devant lui. Il se pose même pas la question de savoir s'il a une face ou pas, quoi. Alors oui, ça peut dégénérer. La menace de suicide en direct reste quand même un moyen infaillible pour attirer l'attention. Mais est-ce qu'on doit foutre du contrôle parental pour autant? Oui, vous diront toutes les Françoises Dolto du monde. Eh ben, moi, je crois pas, parce que je pense qu'Internet a changé la vie de tout le monde. On ne vit plus de la même façon, et le schéma classique de l'adolescence, la construction de l'identité, Oedipe, etc., c'est plus du tout le même. Et je pense que, dans notre époque moderne, il faut peut-être trouver un nouveau Freud. Et ce serait un Freud qui a intérêt à comprendre ce qu'est Internet, ce que sont les adolescents, ce que sont les usages. C'est pourquoi je propose Loïc Lemaire.
Oh non, pas Loïc.
Ah bah, le point Loïc Lemaire, je crois.
Bah, je pense qu'il est encore plus sans race qu'un ado, hein, lui. Hein, ah ouais,
mais je pense que c'est un ado dans sa tête.
Alors, point de vue intéressant de la part de Sylvain, les adolescents ont souvent envahi, pris d'assaut, popularisé et modelé des services à leur manière et des usages qui finalement se sont répandus complètement. Tu parlais de Facebook, on parle de certaines choses sur Twitter. Plus anciennement, il y avait les SMS, qui est un service un peu quand les communications ne passaient pas et qui est devenu quelque chose de complètement codé, codifié avec le fameux langage SMS dont on a parlé précédemment. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que ces adolescents, mes chers collègues de Sylvain, sont effectivement des précurseurs et des trendsetters de l'Internet, Daz?
Ouais. Pour moi, les adolescents permettent en fait à tout un chacun d'imaginer ce que serait la vie en compagnie de Mongoliens. C'est que des trisomiques. T'as l'impression que t'es entouré de trisomiques.
J'ai un éclairage plus pragmatique.
J'aime beaucoup les trisomiques.
Hein. Quel troll,
si on leur permet.
Non, mais
Fibre.
Plus précisément, effectivement, donc en janvier de cette année, il y a tous les ados qui ont migré depuis Facebook jusqu'à Twitter.
Oui.
Et tous les soirs, personnellement, moi qui suis à la course aux followers, et je suis impressionné par des adolescents qui rentrent de l'école, qui mettent leur manteau sur Twitter, qui commencent à animer leur communauté et qui, paf, se passent des soirées avec plus de 10 000 followers.
Ah non, mais c'est clair.
Parce qu'ils entraînent les gens, ils commentent l'émission de télé, ils le font très bien, ils sont en phase avec leur public, leur audience. L'audience est vraiment extrêmement intéressée et des personnes
Ils lancent des sujets type
des gens extrêmement influents de Twitter, comme Nikos Aliagas, etc., se mettent à suivre des ados dont la timeline est utilisable parce qu'ils ont un pouvoir de persuasion extrêmement important. Et ces types-là, parce que je discute avec eux pour les connaître un peu, ce sont des mecs qui sont en BTS, qui sont apprentis pâtissiers, qui sont encore au lycée et qui prennent ça en disant « Oh non, lol, quoi ». Voilà.
Mais qui pourtant sont d'une efficacité, enfin efficacité assez effrayante.
Mais
c'est des professionnels. Il y a justement, on parlait des RTC. Il y a un groupe d'ados qu'on a appelé la team RTC parce qu'ils utilisaient vraiment que ce format de tweet. Ouais. Et ils ont été interviewés et les mecs expliquaient qu'ils sont au lycée toute la journée. Ils écrivent sur un bout de papier les idées de tweets qui leur traversent l'esprit. Et le soir, ils sortent leur cahier et bam, ils balancent tout.
Donc ils sont organisés, ils y vont et tout, quoi.
À mort.
Toi, Mélissa, qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose à propos de tout ça?
Et en fait, ils sont un peu, ils ont pas ce côté genre, je vais être soft, avoir ce petit snobisme, être propre, trouver le meilleur lien, machin. C'est un peu genre, voilà, ils ont rien à battre. C'était comme sur les Skyblog à l'époque. Genre, tu fais le truc le plus dégueulasse, mais qui, genre, est le plus putassier et bam, t'es dedans, quoi. Eux, c'est un peu ça. C'est pas genre, je vais impressionner la communauté des journalistes parisiens. Ah, c'est genre, juste, je vais choper le plus d'ados autour de moi possible, quitte à faire des trucs dégueulasses, quoi. Et donc, ils sont dans leur truc. Non, enfin, moi, dans ma timeline, je les vois jamais à part dans les trending topics. Et c'est fascinant.
Il faut voir la gueule des trainings.
Du coup, j'y vais un peu comme un monde parallèle, dans un monde parallèle. Et là, je fais genre, waouh. Mais ils en ont rien à battre, en fait, de m'impressionner moi.
C'est pour ça que nous, qui sont dans le petit microcosme parisien, journaliste, communication, etc., on appelle ça l'autre Twitter.
Ouais.
Parce que pour nous, c'est vraiment un monde à part.
En fait, il y en a plein.
Ah, c'est comme The Other World, quoi.
Il y a une différence, c'est que c'est un monde extrêmement monolithique, c'est un peu comme les Chinois. C'est-à-dire
que
quand il y a Justin Bieber qui passe dans les experts,
ouais,
je peux vous dire qu'il y a 95% de Twitter qui parlent que de ça.
Ouais.
Mais tandis que nous, en fait, les hipsters parisiens, quand il y a Fauve qui sort son clip, et ben on est tous en train de se dire c'est génial ou c'est pas bien, on se tire dans les pattes, quoi.
Ouais.
Donc il y a moins de monolithisme. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très puissant en termes de communication.
Et sur les autres titres, les autres réseaux, on a vu qu'il y avait des forums qui étaient, par exemple le fameux forum 15-18 de jeuxvideo.com qui était devenu un vrai moteur de la culture internet française.
Je pense que la moyenne d'âge sur ce forum est de 28 ans.
Ouais, c'était quand même assez jeune à l'origine.
Ouais.
On parle de Snapchat qui est aujourd'hui quand même une start-up gigantesque qui a été évaluée à je ne sais plus combien de centaines de millions et qui a été tout d'abord prise d'assaut par les adolescents et aujourd'hui encore la grande majorité d'adolescents.
Ouais,
Tumblr a une cible très jeune.
Maintenant qu'on y arrive sur Snapchat, eux, ils s'en vont parce que ça les fait chier.
Oui, bien sûr. Mais comme tu disais, effectivement, eux, c'est les Christophe Colomb et nous, on apporte la fièvre et les casinos. Et on a vu aussi sur Tumblr que c'était aussi les adolescents ou les jeunes qui ont fait le succès. Est-ce qu'à un moment... Il faut les suivre pour savoir où ça va se passer. Est-ce que ce sont vraiment ils ont un flair absolu pour savoir ce qui va être in et ce qui ne va pas l'être?
Moi, non. Je pense que c'est plutôt non. Eux les suiveurs.
Ouais.
Par contre, ils ont une capacité créative très importante.
Ils n'arrivent pas les premiers, mais c'est eux qui transforment, qui font exploser un site.
Le forum 15-18, c'est un excellent exemple d'une sous-culture qui s'auto-alimente avec. Si on veut savoir le langage de la cour de récré, ça se passe sur le 15-18. Mais c'est eux qui suivront les grandes tendances.
Ça va pas plus loin.
Parlant l'environnement.
Pour moi, c'est des criquets, quoi. Ils arrivent.
Mais en même temps, on a compris que tu n'avais pas beaucoup de respect pour le travail des adolescents.
Non, je les considère pas comme des nuisibles. Hein. C'est effectivement un épiphénomène qui est intéressant.
Tu es trop bon, Dave.
Il est intéressant de disséquer l'épiphénomène.
Attends,
mais
l'épiphénomène, comment tu peux dire ça?
On finira là-dessus, Fibre.
90% du flux Twitter.
C'est de la merde.
C'est pas un petit phénomène.
C'est pour ça que je peux le dire
c'est
comme
le
ça.
Mainstream.
C'est toi qui es dans le snobisme, Daz. Hein,
tout à fait. Tout à fait.
Tout à fait.
On finira sur Daz qui est un peu le snob de la classe.
Complètement.
Et après ce premier sujet, on revient dans le temps, back in time, comme diraient les Anglais ou ceux qui ont fait anglais LV1, pour vous écouter vous. On vous avait interrogé sur vos premières fois sur Internet, vos premières expériences, vos premiers sites, vos premiers émois. C'était lors de la soirée 404 numéro 2, et voici vos réponses à nos questions.
Enfin, tu vois, un truc dans le genre, je suis pas super bon. Ouais. Non mais de toute façon, j'ai jamais été bon au karaoké, alors bon... Du coup, pour imiter la connexion à 56K, forcément, je suis pas super bon.
Alors moi, avant de faire Sens Critique, j'ai fait Game Cult. Et ce qui est marrant, c'est que la moitié de l'équipe de base, je les connaissais d'IRC. Je les avais jamais rencontrés en vrai. Je les ai recrutés juste parce que je parlais depuis un an avec eux sur IRC.
J'ai retrouvé mes archives de MSN Messenger où j'écris, où j'arrive pas à me relire en fait, tellement j'écris en abrégé.
Il y a quelques années, il y a Tipex qui avait fait une vidéo. C'était les premières vidéos en fait qui étaient dynamiques entre guillemets. Donc en gros, tu voyais un type qui chopait un rouleau de Tipex et qui barrait le nom de sa vidéo en l'air. Et tu étais invité à écrire un truc dedans. Et c'était, moi, c'était le premier truc que je me suis dit, c'est vraiment dynamique et j'ai adoré.
Mes premiers souvenirs d'Internet, c'était essentiellement la musique, l'accès à la musique. On avait les premiers logiciels de téléchargement, je me rappelle très bien de Kazaa. Et du coup, ouais, non, j'ai passé pas mal de temps à télécharger de la musique sur Internet. Et j'ai trouvé que c'est un truc assez intéressant de pouvoir avoir un accès aussi facile à la culture. Et c'est pour ça que maintenant, je me suis lancé là-dedans alors que je voulais absolument pas travailler dans la musique. Et c'est essentiellement grâce à Internet. J'aurais jamais travaillé dans la musique si c'était pas Internet.
Mes premiers pas sur Internet, Yahoo, hein, création d'une boîte mail, et puis après, voilà, quoi. C'est assez simple, ma foi, mais un peu de site porno aussi. Mais je mettais très longtemps à télécharger une image. Et là, quand j'ai eu ma première image porno sur mon disque dur, j'étais très très content. C'était merveilleux pour moi. C'était une japonaise.
Eh bien, ma vidéo qui illustre mon adolescence sur Internet, eh ben, tu sais quoi, c'est un gif anime. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de bande passante pour une vidéo. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et c'était le gif anime d'un feu qui tourne en boucle. Et j'étais là, genre, oh, c'est beau.
Malheureusement, c'était les vidéos crado. C'était rammstein007.free.fr, je m'en rappelle encore. C'était tous les pires trucs de porn allemand dégueulasse. Et toutes les vidéos où les mecs se faisaient éclater à la mitraillette. Voilà, on téléchargeait ça en MPEG, ça mettait 30 minutes. C'était affreux, mais on faisait ça, quoi.
Sujet numéro 2.
La majorité numérique
arrive à 14 ans.
Allez, après cette première fac, on continue notre Studio 404 spécial adolescent, adolescence, adolescent avec un S. On les étudie, on voit un peu ce qu'ils font sur Internet et comment ils le vivent. Et deuxième chronique, donc, avec toi, Mélissa, qui, toi, tu t'es intéressée au passage à l'âge adulte, d'une certaine manière, le passage symbolique à l'âge adulte.
Tout à fait.
Et qui a été, du coup, renversé, chamboulé avec le numérique.
Il arrive plus vite.
C'est-à-dire plus vite.
Alors, je ne sais pas quand vous vous êtes doté de votre premier téléphone permettant d'aller surfer sur le web. Personnellement, j'avais 22 ans. Internet était arrivé dans le foyer familial lorsque j'étais en 4e. J'avais donc découvert assez tard les joies de MSN et autres caramels. Je vous dis ça parce qu'un ado, aujourd'hui, a la chance d'avoir accès à tout ça avant même d'être dépucelé. Souvent, il s'en sert pour justement se faire dépuceler. Mais je m'égare.
Par des adultes.
Alors, des parents affolés, ou d'az,
oui, complètement,
pourraient vous dire que ces outils entre les mains de leurs descendants sont un grand danger. Je pense surtout que, en fait, les ados envisagent maintenant la vie et l'apprentissage très différemment et que nous autres adultes sommes grave à la ramasse. Entre guillemets. Internet n'a-t-il pas permis aux très jeunes nerds de devenir des patrons, des entrepreneurs dont les boîtes ont explosé? Faisons une petite liste, alors. Mark Zuckerberg, le bien connu, 28 ans, ouais, qui, avant de lancer Facebook en 2006, créa en 96, 6 ans avant d'entrer à Harvard, l'équivalent d'AOL Instant Messenger, qui n'avait pas encore été lancé, pour le cabinet de son père dentiste.
Un peu overkill, mais brillant.
Voilà. David Karp, le fondateur de Tumblr, mon chouchou, racheté début 2013 par Yahoo, qui a quitté l'école à 14 ans, donc, parce que ses parents voulaient l'autoriser à passer plus de temps sur son ordinateur.
Oh, les parents de rêve. Ah,
sinon, cool. On a le Britannique de 17 ans, Nick Dalloisio, qui a créé Sumly, qui a aussi été racheté par Yahoo pour la somme modique de 30 millions de dollars. Personne. Et enfin, le meilleur d'entre nous, qui n'est plus parmi nous, parce qu'il s'est suicidé, malheureusement, Aaron Schwartz, qui avait contribué à créer les flux RSS à 14 ans, et Reddit, rien que ça, tout l'Internet presque. Donc ces mecs n'ont pas attendu en fait d'apprendre à monter des projets dans une école de commerce dont les profs ne savent même pas envoyer une pièce jointe. Ils sont précisément l'inverse de la génération Tanguy, eux deviennent patrons avant leurs parents. Donc lorsqu'en août 2007, 20 ans à peine, Aaron Schwartz se fait une petite to-do list, voilà ce qu'il écrit. Se renseigner sur un projet à but non lucratif, aider à la réalisation d'une encyclopédie des métiers, créer un nouveau weblog, fonder une start-up, servir de mentor à deux ambitieux projets Google Summer of Code, construire un clone de Gmail, créer une nouvelle liseuse en ligne. Tout simplement, on est en 2007.
Il avait quel âge là ?
20 ans.
Okay. Ah, vieux déjà.
Bon, après il est tombé amoureux et raconte que ça prend vachement de temps. Mais tout ça pour vous rappeler quelques chiffres en fait. Selon une étude du journal Lunette, 8% des 13-16 ans accordent à la télé une importance supérieure au téléphone portable. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je rentrais de l'école il y a 10 ans, je fonçais à regarder Friends. Et aujourd'hui, je le regrette beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié des élèves de 3e passent plus de 3 heures par jour sur Internet, dont 51% avec l'autorisation des parents. Et seulement 3% ne consultent Internet qu'une heure par jour. Alors que nous, c'était grand luxe à l'époque. Hein.
Ouais.
À l'opposé, 3% surfent plus de 10 heures par jour. Il y en a assez fou aussi.
Ça fait beaucoup, là.
Attends, enfin, tu serais pas en train de nous définir la génération Y.
Ah, mon Dieu. Résultat, c'est de donc... plus lorsqu'on passe son bac ou qu'on a une jolie carte d'électeur que tout le monde oublie chez soi. Non, c'est cette connexion avec la Terre entière en une seconde via un smartphone sans contrôle parental qui nous aide. Le pouvoir de draguer, de télécharger des films, des livres, de la musique que nous n'aurions jamais vu, lu, entendu sur les bancs d'un collège ou d'un lycée.
Donc on devient adulte à ce moment-là.
Voilà, je suis bien en train de vous dire que YouPorn peut se révéler bon pour le développement d'un jeune. Pardon Baz, pour ta fille. Car ça lui apprend aussi à ne pas seulement se planter devant Canal le premier samedi du mois.
On n'aura pas Canal.
L'internet, c'est une école de la vie, c'est ce que j'essaye de vous dire. Rappelez-vous quand la jeune américaine Jessie Slaughter en 2010 veut attirer l'attention et se prend un scud sérieux des mecs de 4chan. Est-ce que c'était la faute à internet? Non. C'était juste la version virtuelle et donc puissance 12 de se taper la honte dans la cour du collège. Je pense que son père, donc, qui menaçait les mecs de 4chan d'appeler la cyberpolice,
ouais,
a débranché tous les câbles après ça, mais il a sûrement eu tort. Alors oui, les études montreront que le cerveau des ados peut être affecté par une consommation excessive du web, mais je crois au sens de la mesure des jeunes, j'y crois, aux ados, que tu détestes, Daz.
Je les déteste pas.
Comme nous savions ne pas nous tuer au binge drinking en allant au Métropolis en 2002. Certains d'entre vous, je suis sûr.
C'est dossier qu'elle nous sort.
Je donnerais tout aujourd'hui pour revenir 10 ans en arrière et reconfigurer mon cerveau comme si j'avais grandi depuis mes 12 ans avec Internet tel que je l'utilise aujourd'hui. Peut-être que je ne serais pas journaliste web à écrire sur Secret Story, mais bien PDG d'une entreprise innovante.
Elle veut se servir de son poste.
Hein.
L'acte manqué est total.
Mélissa.
le regret.
Faudra savoir coder quand même.
Pour Mélissa, le passage aujourd'hui à l'âge adulte, c'est plus les 18 ans. Ça se passe beaucoup plus tôt. C'est au moment où on a accès à Internet et accès à un smartphone. Enfin, accès à des outils qui sont effectivement les outils, un terrain de jeu qui sont les mêmes que les adultes. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive sur Internet, aujourd'hui, ce qui se passe à l'adolescence, que je crois que les premiers smartphones vont arriver maintenant pour les gens qui sont à peu près au collège, donc 12 ans, 13 ans.
Je pense qu'il y a même à 9, 10 ans, quoi.
Quoi
non, tout ça est possible. Donc on se retrouve dans une société qui, du coup, devient beaucoup plus précoce qu'avant, parce qu'on avait, comme tu dis, Mélissa, une génération un peu tanguy, qui était toujours plus longtemps chez ses parents, qui était toujours plus adolescente, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une génération qui, à 14 ans, se lance quasiment dans le grand bain à armes égales, outils égaux et
sans contrôle parental.
Sans contrôle parental, attention, avec les adultes.
Tout le monde n'est pas Mark Zuckerberg et tout le monde n'est pas Aaron Schwartz.
Oui,
tu vas avoir un smartphone à 14 ans et rester chez tes parents jusqu'à 46 ans.
Bien sûr. Mais en tout cas, on tombe dans un monde adulte, on devient quasiment adulte aujourd'hui avec l'Internet, c'est-à-dire durant quasiment sa préadolescence. C'est une bonne chose pour vous ou pas?
Bah, il suffit de voir ce qu'ils en font, d'Internet.
Mais attends, t'as vu ce que nous a dit Sylvain?
Bah oui, justement, regardons.
Ils détournent tous les usages pour en faire des trucs plus intelligents et après les sont pris par les marques.
Je pense qu'il y aura de plus en plus d'histoires à la marque Zuckerberg, justement, parce que, en fait, les jeunes, non seulement ont une agilité numérique parce qu'ils sont habitués, etc., mais en plus, ils utilisent vraiment Internet. C'est-à-dire que nous, les vieux, bah, si on veut regarder Friends sur une VHS, je sais pas, on peut se taper un délire et le faire. Donc, pour un jeune, c'est insupportable. Il va regarder en streaming un truc qui vient de sortir. Et donc, il est confronté à des problématiques numériques modernes. Mm-hmm. Ce qui fait que s'il rencontre des problèmes ou s'il veut de l'optimisation, il saura les détecter.
D'accord.
Et donc, il se mettra à créer des entreprises par rapport à ça. Voilà. Quand on dit une entreprise en France, on pense à la SARL, tout ça, etc. Mais aux États-Unis, c'est putain, je fais mon truc et vas-y, j'en parle à quelqu'un, tu vois. Je veux dire, c'est
plus un esprit d'initiative, on va dire.
Voilà, c'est ça. Je parle de l'entreprise.
Le wishful thinking est total.
T'as cité des Aaron Schwartz, des Zuckerberg, des Carp, etc. Mais est-ce que c'est Internet qui a fait les génies ou les génies qui font Internet? Je reformule, est-ce que c'est le piano qui a fait Mozart ou Mozart qui a fait le piano?
Ils avaient
l'outil, nous on l'avait pas. Donc déjà,
on en avait d'autres.
Mais c'est vrai qu'on a vu
le papier par exemple.
Des génies de la VHS.
C'est vrai,
Ceci étant, Bill Gates, il était très jeune quand il a fait le DOS.
Le sens de la chronique de Mélissa était quand même plus l'entrée à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'âge de l'adolescence, on rentre en confrontation directe avec les adultes sur un terrain égalitaire, sans filtre en fait. C'est... Ouais. Au moment où on a son smartphone, c'est sa carte des lecteurs en fait. C'est son sésame.
Ouais, et on poste des photos de chatons et des RT si femmes.
Mais comme les adultes.
Un monde d'adultes avant 18 ans.
Ouais, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça la vie.
Comme on le verra dans une chronique de l'un de nos chroniqueurs ce soir, c'est qu'à la fois les ados ils commencent tôt, mais à la fois les adultes ils ont tendance à régresser un petit peu.
D'accord.
C'est
vrai.
Donc on se retrouve sur un terrain commun. Le d'accord. terrain internet, un peu lol, quoi.
Mais donc vous, ça vous dérange pas qu'il y ait une sorte de, c'est la première fois que on a une sorte d'inversion de cette tendance qui était le vieillissement de la population. Donc on vivait de plus en plus vieux, on faisait des études de plus en plus vieux, on quittait chez papa et maman de plus en plus vieux. Bref, on rentrait dans la vie active et la vie adulte de plus en plus vieux. Et soudainement avec internet, on a un grand bond en arrière. On se retrouve comme il y a 100 ans ou dans des pays où à 13 ans on est déjà adulte et quasiment beaucoup, pas, enfin, des beaucoup plus précoces.
Je suis pas d'accord parce qu'il y a toute une partie de l'artistique que vous mentionnez pas, où les gens justement ont pas attendu d'avoir 30 ans pour peindre, pour faire de la musique, etc. Mm-hmm. Donc pour moi, il y a toujours eu des jeunes précoces qui se sont retrouvés à faire des trucs dans un monde d'adultes assez tôt. Je vois pas la différence.
Non, mais là on parle plus d'une généralité.
Il y en a beaucoup plus qui arrivent beaucoup plus tôt.
Mais il y en a combien qui transforment l'essai réellement. Je veux dire, okay, non, mais on c'est parle même de génie,
pas forcément transformer l'essai.
On parle pas de génie, on parle juste de outils qui te permettent de penser autrement.
Est-ce que les adolescents que je vois autour de moi, ou que je vois poster sur Facebook, etc., bah excusez-moi, mais...
Non, mais rien qu'en termes de responsabilité.
Ça ne transporte pas.
Avant Internet, quand tu faisais une connerie, tu pouvais dire « c'est pas ma faute, et mes parents sont là, de toute façon, ils vont endosser les responsabilités pour moi ». Maintenant, quand tu es sur Internet et que tu débarques, tu es responsable de tes propos, et les ados le savent, ça.
C'est ton identité.
Et après, il y a tes parents qui arrivent, qui prennent une assurance chez AGF pour effacer tes traces en ligne, parce que tu t'es fait boulier par les trois quarts de l'Internet francophone, quoi.
Ça
revient toujours pareil. C'est-à-dire que les ados, ils ont l'impression d'avoir la liberté, et dès qu'ils font un faux pas, de toute façon, il y a les parents, il y a les adultes qui arrivent derrière et qui essaie de rétablir le truc.
Je pense que adolescents deviennent adultes beaucoup plus précocement.
Faux.
Et il va falloir, et ça va reconfigurer complètement la société, notamment l'école. Juste un point significatif, les adolescents de notre âge n'ouvraient pas d'encyclopédie. Aujourd'hui, n'importe quel ado est allé plein de fois sur Wikipédia. C'est tout. Et un jour, les adolescents se formeront complètement et il faudra faire le constat qu'ils arriveront à l'école les mains dans les poches et ils ne sauront pas quoi faire là-bas sinon attendre que le temps passe. Voilà.
Ah ah. Et là, Daz, il répond rien. Oh, d'accord. On finira sur fibre, sur cette note optimiste.
C'est un syllogisme, limite, ce qu'il a fait là. C'est une démonstration par l'absurde. C'est idiot.
C'est très adolescent, finalement. Mais assez parlé d'eux et avec nos chroniqueurs et des adolescents, retour à vous. Vous vous rappelez, c'était lors de la soirée 404 numéro 2 au Café des Initiés. Ghislain, vous avez posé des questions sur vos premières fois sur Internet et on continue avec vos réponses toujours aussi bonnes.
Premier souvenir sur Internet, ok. CompuServe 1994. Il y avait une interview de Sandra Bullock parce qu'il y avait Track sur Internet. C'était peut-être pas 94, c'était peut-être 95. Et Sandra Bullock faisait une interview spéciale pour CompuServe. Et il y a quelqu'un qui a posé une question et elle répond « lol ». Et là, je me suis dit, c'est pas elle qui a répondu, c'est un mongolien d'Internet parce que « lol », c'est interdit. T'as pas le droit de dire « lol ». Et surtout pas Sandra Bullock. Donc ça, c'est un vieux souvenir. Aujourd'hui, c'est dans le dictionnaire. Vous avez un peu mal au cœur. Mais c'est le début de notre défaite, les gens qui n'aiment pas « lol ».
Prodigy à l'époque où c'est genre il avait montré sur Canal 20 secondes, tu vois, il était là genre waouh waouh, mais on peut trouver ça où, on va y chier pour l'avoir. À l'époque, Real Player, mec, ça c'était vraiment une saloperie. Et le truc était tout pixelisé, mais j'avais mis mon Smack My Bitch Up et j'étais vraiment content, quoi, j'étais heureux.
Alors, moi, c'est la révolution Wantel. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mec, alors dans mes souvenirs, il a une coupe, il est blond ou brun, il a une coupe, il a un short, il est cool, il a des sandales, je sais pas, il était stylé. C'était le mec de Wantel et il disait maintenant Internet c'est limité. C'est la première fois qu'Internet était limité, alors qu'avant, avec mon frère, on avait un compte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Heure où on notait combien on avait fait d'Internet pour payer en conséquence la facture à notre mère.
Mais moi, en fait, j'ai une histoire compliquée avec Internet. J'étais pas à Paris, donc j'étais en campagne. Et donc, du coup, pour avoir un forfait illimité, c'était la merde. Donc, je suis passé du 56K à la fibre optique, quasiment. Voilà. pour me venger, voilà, pour, c'était une vengeance sur la vie.
Mon premier souvenir, c'est quelqu'un qui m'a dit hey, « Eh, je vais te montrer un truc trop cool, ça s'appelle Google. » Parce que j'utilisais Voilà à l'époque. Voilà, j'étais très Voilà, moi.
Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit sur le Minitel. C'était Internet parce que j'étais tellement fan d'Internet, de l'idée, que je me mettais sur 3615 Unix. Et mon premier email, c'était huître@alterne.org, j'étais assez fier de moi.
Alors moi, c'était en 1995, tu peux pas test. J'avais donc 17 ou 18 ans, un truc comme ça. Et j'étais moniteur pour Colo. Et le directeur à l'époque, il était fou furieux d'Internet. Donc il avait pris un truc, on était dans le Nord, c'était chez Nordnet, l'Internet des gens du Nord. Et donc on organisait des sessions avec les ados sur Internet, c'était ouf. Et je me souviens de mon premier kiff, c'était de me retrouver sur IRC, sur le chat Yes New York. Et j'avais fait putain, les mecs ils sont à New York, mec. Je suis en train de parler avec eux en direct, c'était génial.
Sujet numéro 3, redevenons-nous tous ados?
Allez, tout de suite, le troisième sujet de notre émission. Il se retient de taper sur la table parce que ça fait deux émissions qu'il adore taper sur la table pour que ça résonne un maximum. Il est très positif sur les adolescents. C'est magnifique.
On l'a refait ?
Non, non, non. Non. Ça restera.
C'est le bordel.
Ça restera à la postérité, Fibre. Donc, Fibre, tu es un peu énervé, toi. Tu es un peu l'adolescent qui est un peu la tourette, qui est un peu excité, qui est l'enfant suractif de la famille. Hein.
Je suis calme.
Non, c'est vrai, t'es très calme. Et tu vas nous parler, par contre, pas exactement des adolescents, mais de nous. Nous qui redevenons un petit peu adolescents, d'une certaine manière, si j'ai bien compris.
La Maxime dit sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien.
Oui.
Mais sommes-nous des ados ou des adultes? La question se pose. Toi, l'âme.
Oh,
toi, Mélissa. Toi, Sylvain, oh, ne parlons pas de Sylvain.
Pourquoi?
Et oui, même toi, Daz, et même vous qui nous écoutez et qui vous prenez pour des adultes serious business, aujourd'hui, vous avez créé un petit lol sur Internet, aujourd'hui, vous avez tutoyé un inconnu. C'est un peu comme dans la pub sur le piratage qui vous disait « Voleriez-vous une voiture si vous le pouviez ?» Hé, à partir du moment où on est de l'autre côté du miroir, on reconquiert un territoire de liberté comportementale qu'on avait lors de nos 14 ans. Dans les comportements d'adultes-ados, on trouve quoi? On s'envoie des petits cœurs par Facebook, Twitter, SMS à des gens qu'on n'a rencontrés qu'une seule fois. On s'écrit sur nos walls Facebook, comme il fut un temps sur nos cahiers de texte. On se prend en photo, le selfie. On le montre à tout le monde avec un petit voile de second degré. On a 30, 40, 50 ans et on s'écrit toute la journée des SMS amoureux.
C'est beaucoup d'amour.
Les applis de communication visuelle, Instagram, Vine, même YouTube, sont-elles utilisées pour faire de l'art? Pour faire de l'expérimentation visuelle? Non. C'est pour montrer ses seins ou en voir, ou faire des petits dessins ou des shows marrants avec ses amis. Comme dans les cours de récré, il y a des clans, la discussion argumentée est impossible, et quand un mec se fait taper dessus, tout le monde se jette ensemble sur lui.
Ah, ça c'est beau ça.
On parle de comportement ado, pas de régression ou d'infantilisation. Il y a dans l'adulte qui crée Boobstagram, donc un Instagram de boobs, hein, on se croirait dans American Pie, une démarche entre guillemets militante, concernant le cancer du sein.
Le gros mytho.
Ah, mais c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Alors, expliquons un petit peu.
On est un peu hypocrite en fait par rapport à ça.
Expliquons un peu le comportement ado. Déjà, il y a une déresponsabilisation juridique et sociale. Si sur Twitter vous montez une photo de votre pénis ou de celui d'un ami, vous allez avoir des gens qui vont retweeter, qui vont rire, qui vont faire des blagues comme Sylvain.
Ouais.
Si Sylvain fait ça dans la rue, il va en prison.
Pas si c'est le pénis d'un ami.
Enfin, il y a une distance. Si Mélissa prend une photo d'elle un petit peu sexy pour un Tumblr,
ce qui n'arrive jamais,
elle est incapable d'imaginer l'audience qui va s'intéresser à elle. Si c'est un gros pervers ou quelqu'un intéressé par la beauté de son corps, etc. Voilà. Dans la vie réelle, vous savez devant qui vous vous déshabillez.
Mmh.
Donc, ça, c'est pour un petit peu circonscrire un petit peu les comportements. Maintenant,
circonscrire.
Les adolescents, deux points importants. Les adolescents, ils suivent les modes. Ils sont consommateurs, ils n'épargnent pas, ils sont prescripteurs, ils sont monolithiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Les puissants qui orientent le monde, comme Sylvain, le marketing et la publicité, ils ont un intérêt à mettre un adulte dans la peau d'un ado, parce qu'ils veulent que cet adulte se passionne et consomme, suive la mode. Donc, nous subissons la pression sociale d'un monde économique qui nous rêve adolescent.
Ah, carrément.
Enfin, dernier point, Internet nous plonge dans une crise existentielle. Livrés à notre propre anonymat, nous devons subir une nouvelle crise d'adolescence, même si nous sommes adultes, celle qui, dans une première partie, nous force à adopter des codes, des techniques, des conventions, donc celles d'Internet qu'on découvre. Mm-hmm. Donc là, l'ado qui arrive dans la cour de récré, qui essaie de comprendre comment ça se passe. Et celle dans une deuxième partie, qui nous force à nous singulariser, à être différents pour exister. Donc la gestion de notre identité numérique est par conséquent une crise d'adolescence permanente. Et c'était une conclusion extrêmement sérieuse.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vécu.
Non, mais par contre, très très bonne chronique, très intéressant cette obligation en fait des adultes d'aujourd'hui modernes qui veulent aller sur Internet à revivre un peu comme des ados ou à revivre des crises d'adolescence.
Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses différentes dans ta chronique. Mais j'aime bien le côté régression en fait de s'envoyer des petits cœurs d'un coup tomber dans l'écriture SMS ou ce genre de choses sous couvert du second degré en fait.
Oui, est-ce qu'il y a une hypocrisie, Sylvain, de notre part, à rigoler des codes adolescents pour finalement les vivre totalement et...
C'est exactement ça. Au début, on en rigole, on met des petits smileys clin d'œil pour faire semblant, on met des petits cœurs, on copie leur langage, des emojis, et puis on finit par faire que ça. Moi, j'ai des amis qui font plus que ça maintenant et je comprends plus. Je suis là, mais attends, ils font ça pour rire ou en fait, maintenant, c'est leur... Enfin, j'arrive pas à savoir, quoi.
Les fameux selfies aussi, qui est un langage d'adolescent aussi, qui est surtout un langage qu'on avait devant le miroir à tester nos looks, notre ego, notre vanité, qui s'est vachement répandu chez les adultes, au final.
Oui, et on peut mettre ça en relation aussi avec les cartes postales Instagram dont on parlait le mois dernier.
Oui.
C'est-à-dire que Instagram maintenant, on montre... C'est moi qui ai les plus belles vacances, les mecs. Je les pattes. Voilà. Donc, c'est un petit peu un comportement adolescent.
Ouais, c'est comme quand tu la rentrée des classes dans la cour de récré et tu disais pendant les vacances, j'ai baisé une meuf. Alors qu'en fait, rien du tout.
Tu lui as roulé une pelle.
Et encore.
Mélissa, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as l'impression que toi, tu as réadopté des codes, des langages ou même des ressentis avec Internet
qui
appartient à ton adolescence?
Comme disait ce que soulignait Sylvain. J'ai longtemps refusé de faire des smileys.
Ouais.
Or, je le fais aujourd'hui, malheureusement. Après, je sais encore faire des phrases en français, mais j'utilise beaucoup, beaucoup de smileys. Mais c'est vrai que, en fait, on a réappris à essayer d'être le plus populaire dans la cour de récré, quoi.
Ouais.
Quand mon père a vu Twitter la première fois, il me fait, mais c'est une cour de récré, t'es en train de rigoler avec tes potes, là. Et je lui dis, oui, mais en même temps, il y a beaucoup plus de monde qui m'entend. C'est comme s'il y avait, genre, le lycée et l'autre lycée à côté et l'autre lycée encore à côté.
Les intercommunales.
Et puis, la cour de récré, c'est ça aussi. On se rend pas bien compte, mais ça a l'air joyeux, ça a l'air sympa. Et puis finalement, en fait, un jour, on se prend une grosse claque dans la gueule. J'étais pas tant adolescent que ça.
Bon, couvrez-vous les oreilles. Daz, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
En fait, ce que dit Fibre, c'est qu'il passe par le prisme de l'âge pour justifier des comportements sociologiques. Et pour moi, c'est idiot.
Voilà. Ah.
Donc on est tous décomplexés. Ça veut pas dire qu'on est tous adolescents.
Là, jamais d'accord.
Non, on dit pas qu'on est tous adolescents.
Mais c'est juste qu'ils sous-entendaient quand même le fait que t'arrives en tant qu'adulte sur Internet. Moi, je vois pas pourquoi si je suis adulte sur Internet, il faudrait que je vous voie les gens et que je dise cordialement à la fin de ton mail, quoi. Je veux dire, t'as le droit d'être relax, t'as le droit d'être décontracté, sans forcément avoir 14 ans. Faut arrêter. Hein.
Et c'est vrai que l'histoire du web, c'est ça à la base. Hein. C'est quand même une communauté de gros hippies de la côte ouest californienne qui sont là où c'est New Age, on est tous ensemble.
Il y a certaines conventions sociales qu'on dégage parce que c'est plus la peine de les utiliser. Je veux dire, c'est pas l'apanage des adolescents de pas dire bonjour, pas dire au revoir.
Et sur cette aussi, une autre facette de l'adolescence qui est souvent la sursensibilité. On a l'impression que les gens, tout de suite, n'importe quoi devient un drame, n'importe quoi devient extrêmement marrant, n'importe quoi devient énorme. Alors qu'il ne l'est pas forcément, on a aussi l'impression que sur Internet, il y a une caisse de résonance.
Mais ça, c'est lié.
Qui nous rend tous hypersensibles. Qu'est-ce que tu penses, toi?
Tu dis ça.
Non, mais c'est lié au fait que tout le monde soit connecté ensemble et réagisse en même temps.
Ouais.
D'accord.
C'est surtout ça pour moi qui.
Non, moi, je trouve que l'hypersensibilité est au contraire un moyen de ramener l'audience à soi. C'est-à-dire que Daz parle des coquillages. Moi, je trouve que ses propos me choquent complètement. Je fais mon drama queen sur Twitter. Et tout d'un coup, tout le monde se solidarise avec le plus faible. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable. D'ailleurs, il y a certains sujets, je le dis, hein, l'homosexualité, le féminisme. Vous rigolez. Fibre tigre, exactement. Fibre tigre ne peut pas parler de féminisme sur Twitter. Quoi qu'il dise...
Il a tort.
Voilà. Il y a certains...
Sur les autres sujets aussi.
Exactement.
Mais c'est vrai que les féministes sont beaucoup plus déterres.
Voilà,
j'ai employé un terme d'adolescent.
Et paradoxalement, coexistent dans ce monde d'ado des hashtags si j'étais
absolument
juif,
horrible, voilà,
blanc, ouais. Tu vois. Et voilà, et c'est le monde d'ado.
Fragile.
Un peu.
Depuis que je suis blanc. Mon Dieu. C'est ça l'adolescence.
Sylvain Mélissa, qu'est-ce que vous pensez de cette hypersensibilité? Du coup, c'est une illusion créée par Internet, comme dit Daz, ou est-ce que vous pensez qu'on devient, à force d'être toujours impliqués comme ça les uns avec les autres, on devient aussi parfois un peu excessif dans ses réactions, comme les adolescents?
J'interviens juste rapidement.
Non.
Si tu vas sur un forum de tricot, oui, où la moyenne d'âge est de 65 ans,
oui,
et regarde les réactions, c'est exactement pareil, c'est que mêmes, si, ouais, tu vas sur le 15-18.
C'est ce qu'on dit, donc c'est ce qu'on dit.
Mais donc c'est pas lié, enfin c'est pas une notion de réaction.
Bah là, tu viens de te contredire, parce que là, l'internet transforme les gens un peu.
Justement, c'est le fait que t'es plein de gens, t'es une communauté, t'as plein de gens qui communiquent et qui peuvent réagir en temps réel, c'est juste ça. Quelle que soit ta classe d'âge, t'auras les mêmes.
Et tu ne vois pas la gueule qu'ils ont quand ils parlent, en fait. Donc quand la mémé, elle fait une remarque sans mettre de smiley à la fin, sur le tricot. Bah juste l'autre mémé, elle voit pas qu'il y a pas de smiley et du coup elle dit ouais, oh ça se trouve elle va me critiquer, et juste c'est et comme ça.
Mais
c'est juste que les gens voient
sont,
pas les visages,
mais donc
les
gens
les
sont un peu à vif du coup, un petit,
oui,
peu.
Mais je pense que on s'éloigne un peu du sujet, mais je pense, ouais, que quand même quand on continue qu'on reste à parler avec toujours les mêmes gens, toujours la même communauté, il y a un effet tunnel où on a des œillères et on est là et on prend la mouche un peu pour rien, etc. Et on relit nos tweets le jour d'après et on se dit waouh, putain, mais...
je suis parti loin.
Ouais, je suis parti loin. T'es con, quoi. Qu'est-ce que j'avais, putain.
Donc
j'avais mangé du Daz ou quoi.
Donc finalement, un peu comme des ados, on se rend compte qu'on était tellement con et pas stylé il y a 2 ans et qu'on était ridicule.
Exactement. Voilà.
Mais c'est... les ados se rendent pas compte de ça en tant qu'ados. Ils se rendent compte quand ils sont adultes. Eh ouais.
Daz sans pitié.
Eh ouais, mon petit gars.
Ouais, j'attends impatiemment ta chronique. Mon ami. Allez, on fait une petite pause et on revient à vous. La soirée est continuée. En juin, il faisait beau, nous étions fous, nous étions beaux. Et vous commenciez à être alcoolisés. Mais pourtant, les réponses étaient toujours très sincères. Alors, qu'est-ce qui se passait, vous, dans votre tête et dans votre petit corps sur Internet pour vos premières fois? Voici vos témoignages.
La première fois que je me suis fait péter en train de faire des mails de cul sur Internet par caramel par mes parents. C'est normal, je m'appelle Natacha.
En fait, l'image qui m'a choqué le plus, je devais avoir 18 ans, c'est Meg Ryan qui se prend un boucaqué, en fait. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse parce que c'était vraiment bien fait. Et l'espace de 10 secondes, j'ai vraiment cru que c'était tiré d'un vrai film, en fait. Et ça m'a beaucoup marqué.
Souvenir d'ado, alors Sexy Lou. Voilà, alors personne ne s'en souvient, c'était un site qui proposait des images de 50 pixels par 50 pixels de trucs de cul érotiques. Et il y avait aussi CD Dingo, ça s'appelait. Et il demandait un petit CD avec les premières vidéos, genre le mec qui sautait de la piscine et qui se rétablissait sur les couilles. Bah voilà. Bon. Ça, c'était en magazine et on pouvait les voir sur Internet. C'était le meilleur de l'Internet, mais dans ton kiosque.
Oui, non, mais alors là, j'ai honte. Je sais pas, je vais avoir 12 ans et c'était les... genre, j'imprimais les images de Simpson que je trouvais sur Google, quoi. Et je coulais dans mon... Tu sais, dans ton agenda que t'avais quand t'étais petit. À l'époque, c'était grande classe. Aujourd'hui, tu regardes ça et tu fais « Oh putain, ouais, c'est chaud !»
C'était la magie du web, c'est que avant, j'aimais bien traîner sur mon ordinateur, mais j'avais rien à faire. Avec le web, t'aimes bien traîner sur ton ordinateur parce que justement, t'as plein de choses à faire. Et c'est infini.
Le modem qui faisait le bruit horrible, là, et l'ICOS, tout ça. Et je crois qu'on avait que sa messagerie et puis on était contents déjà. C'était ça Internet en fait, c'était envoyer des emails, il n'y avait pas trop d'autres choses, je crois.
Alors moi en fait, j'ai commencé Internet très très tôt en fait. Avant Internet, il y avait le BBS qui était le prémisse d'Internet en gros. C'était le bulletin board system qui permet de connecter sur une plateforme pour télécharger des logiciels et du porn aussi quoi. Donc pour le coup, c'était... en 92 je crois, et j'ai eu ma première connexion à Internet en 93 et j'allais sur yahoo.fr .com et il y avait 3 images sur la page et c'était juste magique quoi. Je me suis dit, je suis connecté aux États-Unis.
Sujet numéro 4:
protégeons nos parents d'Internet.
Et on attaque la quatrième et dernière chronique de notre studio 404 spécial adolescent. Forcément, on finit par papa, hein, qui va... Papa qui a grondé et qui a fessé tous ses petits-enfants là durant toute l'émission, c'est Daz. Mais qui, du coup, lui, va carrément se foutre un peu de la gueule, non pas des enfants, des adolescents, mais de nos parents.
Et oui,
parce qu'on va la faire. On va la faire à l'envers, parce que souvent les adolescents, on a peur pour eux, on se dit oh là là, abandonnés seuls sur la jungle de l'internet, le Mordor qui sont les réseaux sociaux. Ils font des gaffes, ils se font violer par des pédophiles, ils se font escroquer, on retrouve des photos de partout sur internet. Bref, on a toujours très peur pour nos adolescents, c'est souvent ridicule. Et si on avait un petit peu peur pour nos parents d'âge aussi?
Tout à fait. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer en disant ceci.
Peggy 50.
Donc, maintenant que ça s'est posé, on peut y aller. Donc, chers auditeurs, l'heure est grave, vous le savez. D'après pas mal d'observateurs situés un peu partout sur le globe, il semblerait que de plus en plus de seniors tentent de se lancer sur Internet. Et comme à l'époque de la révolution sexuelle, ils y vont nature, les seniors, sans aucune protection ni aucun soutien logistique, comme si Internet était un espace vierge de tout piège et de tout vice. Les cons. Devant l'ampleur du phénomène, les psychologues du MIT ont trouvé un nom à cette pratique, le bear surfing des vieux. On ne compte plus les cas d'arnaque en tout genre, ciblant principalement des seniors imprudents. Il semble en effet que la promesse d'un don de 125 milliards de francs CFA, offerte par une veuve orpheline de 13 ans, ivoirienne, victime du combo diabète-cancer du cerveau en phase terminale, fasse tomber chez nos aînés toutes les défenses pourtant érigées tout au long d'une vie de prudence et de méfiance vis-à-vis d'autrui. L'empathie devant la maladie, très certainement. Les autorités ne savent pas encore comment réagir face à ce phénomène, mais il semble que le ministère de l'Intérieur envisage une interdiction pure et simple de l'accès à Internet pour tout adulte de plus de 50 ans et 34 jours.
Oui, faisons-le.
Et à bien y réfléchir, ça serait pas plus mal. Parce que parmi nous, et parmi vous, auditeurs, qui n'a jamais vu son père rentrer ses coordonnées bancaires sur un site hébergé au Béloutchistan suite à la réception d'un message de la BNP lui demandant présentement de mettre à jour son espace client, alors que tous ses comptes sont domiciliés au Crédit Mutuel? Qui n'a pas vu sa mère faire un mandat cash Western Union afin d'éviter que GDF Suez ne coupe la ligne France Télécom du domicile? Qui n'a pas un oncle dont le PC semble marcher moins bien qu'avant, entre guillemets, pour découvrir 345 services en auto-launch, 157 barres d'outils et un site de pornwares russe en page d'accueil dans Internet Explorer? Qui n'a pas reçu de sa belle-sœur un fichier PowerPoint de 46 mégas nous vantant la beauté de la planète bleue grâce à des images bitmap en 250 par 380, ce qui était la haute résolution en 1994? Pensez à ceux qui vivent dans la honte depuis que leur grand-père a posté un message de soutine sur la fanpage Facebook de Véronique Jeunesse ou Christine Boutin. Ne souriez pas, ça peut vous arriver à vous aussi. Alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est les aider pour les empêcher de continuer à croire que Two Girls One Cup, c'est une recette de cuisine. Et épargnons-leur le choc de la découverte de l'omniprésence du second degré et du cynisme sur Internet. Protégeons-les de la violence gratuite et du degré zéro de l'argumentation en forçant le Figaro.fr à fermer ses commentaires, s'il vous plaît. Empêchons-les, de foutre par la fenêtre une vie de respectabilité en leur interdisant l'accès aux réseaux sociaux et aux moteurs de recherche. Aidons-les à croire que sur le web, tout le monde ne parle que de Montescalier Stana disponible en cuir et de camps de vacances médicalisés. Protégeons nos parents.
Alors, vous l'aurez compris, hein, Daz, voilà.
Merci.
Alors, on s'était promis de tous dire, hein, Daz, c'est nul, c'est idiot, parce qu'il nous a tous cassé quand même,
c'est nul.
J'ai pas cassé.
Hein. Ouais, c'est
non,
ça.
C'était vachement bien.
Bon, et donc, Daz, sur ta chronique, t'as encore réussi à critiquer des gens qui, coup-ci, sont nos parents. Effectivement, ouais. Qui sont souvent ont peur de manière excessive et irrationnelle pour leurs adolescents d'enfants. Alors qu'en fait, au final, on a vu qu'avec Internet, les rapports sont un peu renversés. Bah, ouais. On en a parlé un peu pendant toute l'émission. Les adolescents sont quand même beaucoup plus débrouillards, beaucoup plus perméables, beaucoup moins sensibles et moins naïfs sur ce grand western qui est Internet que leurs parents.
Ils savent où ils vont, quoi, tout simplement.
Mais pourquoi, là, du coup, est-ce qu'on doit vraiment éduquer nos parents à un moment ou est-ce qu'il faut les laisser galérer entre eux?
Bah, si on les laisse galérer entre eux, c'est l'honneur de votre famille qui va passer par la fenêtre. Donc, à un moment donné, je veux dire, tu vois quelqu'un s'autodétruire, tu l'aides un petit peu quand même. À plus s'autodétruire, hein, je précise.
Est-ce que vous, toi, Mélissa, est-ce que t'as déjà été embarrassé par certaines réactions ou présences de tes parents sur les internets?
Non, moi, ce qui m'énerve plus, c'est leur pratique. C'est-à-dire qu'ils ont des vieux réflexes, tu vois. Ils n'arrivent pas à cliquer droit.
J'imagine Mélissa derrière comme ça.
Mais non!
Brûlons-les tous.
À la cravache.
<C'est... rire> En fait, ils n'arrivent pas à apprendre. C'est-à-dire qu'ils vont, ils ouvrent Internet déjà sur Internet Explorer, certes. Et genre, ils savent aller que sur Le Monde. Il y a toujours la blague de ils tapent Google dans Google, mais en fait, ils sont assez peu explorateurs, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est vraiment, vraiment dommage, parce que du coup, ils ont peur, et en même temps, ils se laissent avoir par des trucs cons, genre des pubs, ils croient que c'est des articles. Enfin,
bon. Ah, c'est dur.
Fibre, si, c'est bien, ça.
Est-ce que tu penses qu'on doit, nous, en tant qu'ex-ado, on doit se venger et du coup, être surpaternaliste, surprotecteur et quasiment insultant envers nos parents et leur capacité d'apprentissage sur Internet, ou est-ce qu'on doit juste les aider et dire, bah, c'est cool, t'inquiète pas, tout va bien se passer? Comme on aurait voulu que nos parents nous aident quand on est adolescent.
Juste instant testimonial malaise.
voilà.
Instant malaise. Moi, ça m'est vraiment arrivé, donc la situation complètement inversée par rapport aux parents adolescents.
Oui.
C'est-à-dire, mes parents qui me disent, j'ai un bon ami, il est allé sur un site porno et il se demande si on lui a pas volé son numéro de carte bleue, tu vois.
Oh là là,
c'est un ami. Est-ce qu'il, est-ce qu'il risque quelque chose? Non, papa, ton ami ne risque rien.
J'ai un bon ami que personne ne connaît.
Non, mais tu le connais pas, tu le connais
pas. Ah, tu t'es retrouvé dans cette situation.
Voilà, et donc, ah bon? Il y a du porno sur internet? Ah non, ton père pourra pas y aller, tu vois. Donc, c'était.
Les tigres seniors, ils ont tiré une couche aussi. Ils sont pas mal.
Non, mais bon, ce sont déjà. Ils connaissent pas internet, c'est pas leur vie, mais voilà, et donc ils découvrent. Mais par contre, mes parents, à partir du moment où ils ont compris qu'ils pouvaient acheter des choses moins chères sur internet, oh, ça y allait, hein, ils ont vite appris, là. Voilà. Mais ils sont aussi intelligents que nous. Ils ont moins d'expérience que nous, mais le delta va rapidement se rattraper, quoi.
Pareil. Et toi, Sylvain, alors du coup, tu penses qu'il faut faire confiance à nos parents comme nos parents ne nous ont pas fait confiance?
Il faut passer par une phase d'apprentissage.
Les choses d'Internet, franchement, ça sert.
Extrêmement pédagogique avec ma maman, qui s'est beaucoup intéressée à Internet et qui a voulu faire énormément de choses parce qu'elle gère une association. Et elle a voulu, par exemple, créer un blog pour poster des articles et des photos. Je lui ai installé un WordPress.
Là, tu vis ton père, là, non?
C'est vrai que j'ai un peu, ouais. Je lui ai installé un WordPress. Je lui ai fait un fichier Word avec les mots de passe. Avec comment écrire un article, comment poster un truc, comment poster un machin. Et maintenant, elle gère son truc toute seule comme une grande.
Ouais,
mais ça, c'est pas. Est-ce que t'appelles pour faire du SAV des fois?
Vraiment pas souvent.
D'accord. Donc toi, t'es un enfant progressiste, comme des parents progressistes, en fait. Et là, tu fais confiance à l'épanouissement de tes parents.
Moi, j'ai essayé de le faire comme Sylvain. Ça n'a pas marché. Moi, c'est mon père qui m'appelle pour me demander les codes Canal+ de son décodeur à lui.
Donc t'as des parents un peu incapables.
Ah, ils comprennent rien. Mon père pense qu'il comprend. En fait, il est comme moi, mais plus vieux, donc c'est atroce. Ou je suis comme lui, mais plus jeune, donc c'est atroce aussi. Mais voilà, il pense en fait que parce que tu lui en as parlé 3 minutes, il maîtrise le sujet et.
Ah, ça c'est l'ego des. C'est l'ego des parents.
Ouais.
Ça,
et c'est horrible parce qu'en fait, j'essaie de lui faire comprendre qu'il ne comprend rien. Pas en ces termes-là. Je suis un peu plus gentil parce qu'il peut me gifler. Mais quand je vois son bureau, je comprends qu'il comprend rien, en fait.
Voilà, moi, tu m'enverrais une capture de son bureau.
Ah non, vaut mieux après, tu vas te suicider, quoi.
J'ai un autre exemple aussi frappant. C'est que je suis un enfant du Windows normal, classique. Et là, il y a eu récemment Windows 8 avec des icônes bizarroïdes. Enfin, une sorte
des tuiles.
Des tuiles. L'interface et moi, mon père, il a commencé avec ce Windows 8.
Ah, d'accord. Ah,
c'est pas mal, ça. Et du coup, il est hyper à l'aise. Et moi, je suis complètement perdu. Il me dit, vas-y, clique là, c'est là qu'il faut cliquer.
Ah, donc là, la boucle est bouclée. C'est magnifique. Ouais. On a un parent adolescent qui comprend mieux une nouvelle technologie que son fils, parent vieux con, finalement.
Et ouais, moi, j'arrivais pas à installer où est la ligne de commande, enfin, tu vois, où est le. Où est le bouton start? Il n'y a pas de bouton start, tu vois, sur Windows 8. Et donc lui, il est complètement à l'aise parce que, en fait, il a démarré avant les autres. Et quand on démarre à la même vitesse, ben on apprend à la même vitesse, c'est tout.
Ah, donc c'est presque un message d'espoir pour nos parents, finalement.
Il y a quand même pas d'histoire d'âge. Plus tu vieillis, plus t'as du mal à les intégrer, quand même. Hein.
Oui, normalement, nos capacités cognitives ralentissent avec l'âge.
Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que, par exemple, mon père a jamais été à la ramasse. On a découvert Internet en même temps, c'est lui qui m'a appris, c'est lui qui m'a installé mon premier ordinateur, etc. Et pourtant, il est pas informaticien, hein. Mais bon, il a découvert Internet en même temps que moi et bon, c'est pas son métier, donc il est pas aussi doué que moi, mais il se débrouille super bien, j'ai rien à lui apprendre à mon père, quoi.
Mais toi,
t'as de la chance.
Ouais, toi, t'es le papa progressiste, toi.
Je pense qu'il faut y trouver son intérêt.
Effectivement, comme tu dis, quand les parents y trouvent un intérêt, comme acheter moins cher, par exemple.
Ou le porno.
ou le porno moins cher.
Le porno moins cher.
Non, mais bon, voilà. Ça, on parle d'un ami.
Je veux dire, il y a des sites de rencontres pour vieux qui marchent très bien.
Oui.
Et un site de rencontre, il faut quand même y aller, il faut quand même s'inscrire. Quoi, donc,
et d'ailleurs, ce qu'il
y a. Ouais, mais il y a des réflexes, enfin, c'est certains réflexes qu'il faut leur inculquer.
Je pense qu'à partir du moment où tu trouves ton intérêt, putain, ton
travail,
tu
t'engages.
Mélissa.
Ils se perdent pas, ils ont pas autant ce goût de je vais me perdre sur les autoroutes de l'information, aller dans les ruelles sombres des forums et des choses comme ça. Sauf si c'est genre le forum de tricot.
Ouais, ils se perdent beaucoup dans les ruelles sombres que sont les commentaires des grands quotidiens nationaux.
C'est le Figaro.fr que leur page d'accueil.
Moi, je sais que mon père, il m'a avoué qu'il avait un pseudo et qu'il allait troller les gens sur. Mais en plus, mon père étant.
Tu es le fils de ton père,
ça va.
Et qu'il lâche des commentaires incendiaires sur le site Libération.fr parce qu'il faut qu'il éduque les gens.
Ça se trouve, il va que sur Libération.fr.
C'est bon, ça.
Moi, je suis le parent d'un enfant turbulent, moi.
Tu vois, je pense que tu donnes Fidli à un de nos parents, il flippe un peu, quoi.
Ouais. Oui, ça c'est sûr.
Mais il faut qu'ils comprennent les flux RSS, effectivement. C'est pour ça qu'il faut les briefer d'abord.
Donc là, vous leur faites pas confiance, en fait. Comme nous,
si, mais faudrait leur apprendre.
Vous êtes en train de dire que vos parents sont trop bêtes pour apprendre ça ou pas?
Non, ils sont pas trop bêtes, c'est juste qu'ils ont pas envie, en fait. Ils ont pas d'usage.
On finira sur cette discussion qui a été parfaite, parce qu'on a une vraie discussion de parents qui parlaient de leurs enfants. Du début à la fin. Il faut les éduquer. Moi, le mien, il est progressiste. Moi, le mien, il apprend vite et tout.
C'était fantastique. Le mien, c'est des Mongoliens. Voilà.
Chers parents, on vous adore, on vous aime. Oh, tristesse, cette émission va bientôt se terminer, mais on termine en beauté avec une dernière FAQ, une dernière salve de réponses de votre part. On vous rappelle quelles étaient vos premières fois, vos premières expériences et vos premiers ressentiments sur Internet back in the years quand vous aviez un appareil plein de boutons et pas encore de petites copains ou de petites copines. C'est tout de suite en live totalement différé de 6 mois depuis le Café des Initiés.
Ok, je me rappelle d'un truc, c'est du piratage, faut pas le dire. C'est le fait d'avoir vu Matrix un mois avant... même qu'on en entende parler. Donc là, on regardait Matrix, on savait pas de quoi ça parlait. On fait, mais c'est quoi ce truc? Premier combat, on fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Quand il sort de la matrice, quand il arrive dans le monde, je fais, mais c'est génial, c'est quoi ce film? Mais on était à fond, on savait pas ce que c'est ce film, on se disait, mais c'est quoi, c'est oufissime! 3 mois plus tard, tout le monde adore, oh, mais c'est quoi, c'est Matrix, on s'en fout, c'est de la merde.
On avait un super ordinateur à l'ancienne, celui avec la disquette, avec la grosse borne posée sous l'écran, et puis le bruit du modem qui se connecte, quoi. C'est ça Internet. Et Netscape, c'était vraiment le truc de mon Internet. Et la première image de synthèse, avec des gros carreaux que ma mère avait imprimés, que du coup on avait encadré, quoi. C'était le truc de ouf.
Non, mais moi ce qui est marrant, c'est que je me souviens de NetStadium. NetStadium, c'était en parallèle d'IRC. Et c'était les premiers jeux multijoueurs, c'était un internet parallèle, on va dire. Et c'est vrai que quand quelqu'un me dit qu'il a connu NetStadium, tout d'un coup, il y a un regard, il y a un truc qui passe entre nous, c'est sûr.
Les mecs, ils faisaient un délire sur System of a Down. C'est juste deux mecs qui sont devant leur webcam et qui bougent la tête comme des débiles sur la chanson. Rien que ça.
Moi, j'ai 30 ans, donc j'ai connu la vidéo avant le streaming. Ça veut dire que quand tu voulais mater du porno gratuitement, en fait, tu matais des vidéos qui durent environ 30 secondes, qui étaient des espèces de teasers, des trucs de cul. Sauf que bien entendu, t'es ado, t'as pas de carte bleue ni rien. Donc, tu te mets tous ces teasers les uns à la suite des autres. Tu vois, t'essayais de mettre les trucs qui ressemblaient à des préliminaires au début, les trucs qui ressemblaient à l'acte au milieu, les éjacs à la fin. T'avais un peu ta meuf parfaite, comme dans Les Trois Frères, quand il dit, tu vois, les yeux de Sharon Stone, le machin. Sauf que là, c'était, ok, elle, c'est celle qui suce le mieux, elle, c'est la meilleure en levrette. Et du coup, ça te faisait une espèce de meuf parfaite.
Studio 404. L'émission de société numérique.
C'est la fin de notre émission spéciale adolescent. Évidemment, il y a encore plein de sujets qu'on aurait voulu traiter. On espère pouvoir en discuter avec vous sur les interwebs. On se retrouve le mois prochain pour notre émission. Et on dit au revoir du coup. Merci beaucoup à vous quatre. Merci Mélissa.
Au revoir papa, au revoir maman.
Oh. Salut à tous.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Et ne prenez pas au sérieux ce que je dis sur les Mongoliens.
Il est sympa.
Mais sur les criquets, si, prenez-le aussi.
Oui, ça par contre.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.